France Culture, les matins d'été.
Bonjour Amélie Nothomb.
Bonjour.
Dans votre dernier roman, Les Aérostats, publié chez Albin Michel, on découvre une autre étrange famille. Alors cette étrange famille, elle est présentée au travers d'un jeune homme. Un jeune homme de 16 ans, il s'appelle Pi, il est dyslexique et une jeune étudiante en philologie bruxelloise, Ange, est embauchée par le drôle de père de cet enfant, lequel demande à Ange de lui apprendre à aimer la littérature et également de faire quelque chose contre la dyslexie de cet enfant. Et Ange va faire des miracles, puisqu'elle va réussir à faire en sorte que cet enfant non seulement lise, mais apprécie la grande littérature. C'est une sorte de fable moderne au sujet des pouvoirs de la littérature. Vous croyez donc en la littérature, Amélie Nothomb ?
Je crois en la littérature parce qu'elle m'a sauvée. À l'adolescence, je vivais dans le néant. S'il n'y avait pas eu la littérature, et en particulier les classiques, je ne sais pas ce que je serais aujourd'hui. Ce n'est même pas une nourriture spirituelle, c'est carrément c'est ce qui m'a formée, même physiquement. Je n'avais pas de corps au moment de lire les classiques, j'ai un corps depuis que j'ai lu les classiques.
Ça vous a sauvé de quoi ? D'être informe, puisque vous dites que vous n'aviez pas de corps.
Ça m'a sauvé du néant, ça m'a sauvé du non-être. On ne peut pas grandir à partir de rien. Et j'étais vraiment dans le néant. Adolescente, j'ai lu les classiques, j'en ai fait la matière même de ma croissance et raison pour laquelle je suis là devant vous aujourd'hui.
Et on s'en félicite. D'ailleurs, on a la possibilité aussi de lire ce que vous écrivez sur la littérature. C'est un roman entièrement dialogué ou presque. Pourquoi avoir choisi cette forme, Amélie Nothomb ?
Oh, elle m'est particulièrement familière. J'ai commencé par le dialogue. Je vous rappelle que Hygiène de l'assassin est écrit entièrement en dialogue. C'est la forme qui m'est la plus naturelle. C'est-à-dire que quand je pense toujours sous forme de dialogue. Donc, quand je prends la plume, c'est tout à fait naturel pour moi de poursuivre ce dialogue par écrit.
Une forme de dialogue, alors, non pas socratique, mais stendhalien en particulier, puisqu'il s'agit du rouge et le noir. Ensuite, un dialogue sur les Grecs anciens, puisqu'il est question de l'Iliade et de l'Odyssée. Il est question de Kafka et de la métamorphose en particulier, de Virginia Woolf. Il y a un clin d'œil à ce grand écrivain également, Amélie Nothomb. Pourquoi avoir décidé de faire converser finalement un élève et son maître, alors un maître qui est très peu plus âgé que l'élève, mais malgré tout, il y a une différence importante de culture. C'est une relation asymétrique, comme on dirait aujourd'hui.
Oui, donc le maître est une maîtresse, elle a 19 ans, et l'élève a 16 ans. Mais entre eux, il y a le fossé qui sépare une personne qui est éprise de lecture depuis toujours et d'une personne qui n'a jamais lu. Elle va très bien réussir à lui communiquer le virus de la façon la plus simple. Pour transformer quelqu'un en lecture, il faut lui faire lire de très 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 bons livres. Mm-hmm. Surtout ne pas penser qu'un livre est trop difficile, ça c'est juste du mépris. Commencer par les livres les plus difficiles me paraît au contraire la meilleure méthode. D'ailleurs, c'est quand elle lui recommande de lire l'Iliade, qui est quand même pas la lecture la plus simple, que ça marche le mieux. Donc voilà, mon conseil, c'est de commencer tout de suite par la difficulté. La difficulté est très stimulante pour les adolescentes. Et de toute façon, le mieux, c'est de prendre des chefs-d'œuvre. Et quel plus grand chef-d'œuvre, en effet, que l'Iliade et l'Odyssée.
Oui, mais avec le rouge et le noir, par exemple, ça ne fonctionne pas très bien.
Alors, je tiens à dire que je n'ai inventé aucune des opinions que je mets dans la bouche de Pi. Pi, c'est donc l'adolescent de mon livre. J'ai été répétitrice de français quand j'avais 19 ans. Par la suite, j'ai souvent eu affaire à des adolescents. Par pièces et morceaux, toutes les opinions que je mets dans la bouche de Pi sont des opinions que j'ai entendues chez des vrais adolescents ou adolescentes de 15 ou 16 ans. Donc, si brillant...
Alors, ça veut dire que le Rouge et le Noir, par exemple, c'est un roman que les adolescents d'aujourd'hui, certains adolescents d'aujourd'hui, ont du mal à lire.
Certains adolescents d'aujourd'hui réagissent très mal. Le Rouge et le Noir est un roman qui gagne à être lu après 20 ans. Je le constate avec sidération. C'est un chef-d'œuvre absolu, c'est l'un de mes livres préférés. Mais avant 20 ans, il passe bizarrement, les adolescents sont allergiques à Julien Sorel.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que ce Julien Sorel, ou bien il n'arrive pas à s'identifier à lui, mais je ne sais pas d'ailleurs s'il faut s'identifier.
Je ne sais pas pourquoi, je crois qu'il y a une très grande confusion, surtout aujourd'hui chez les adolescents, entre morale et littérature. Ils disent Julien Sorel est un salaud, déjà je trouve ça discutable, et donc c'est un mauvais livre. C'est très important d'expliquer aux adolescents que la littérature, ce n'est pas l'apprentissage du bien. Voilà, le roman est un miroir que l'on promène le long du chemin, c'est exactement ça. Pourquoi est-ce que Julien Sorel nous parle tellement ? C'est parce qu'il est exactement comme nous. Il est composite.
On est comment, Amélie Nothomb ?
On est un composé de beauté et de laideur. On est soumis à toutes les humanités, on est tour à tour grotesque et grandiose. Voilà, c'est ça être Julien Sorel.
Mais être Julien Sorel, c'est aussi avoir une soif d'ambition dans le monde, et c'est aussi avoir un certain nombre de dilemmes et puis composer avec cette morale, Amélie Nothomb.
Mais oui, alors voilà, Pie dit mais c'est affreux, c'est un ambitieux. Mais ce n'est pas qu'un ambitieux. La fin le prouve bien. Pourquoi est-ce qu'il a le sentiment à la fin d'avoir totalement réussi sa vie ? C'est parce qu'il a rencontré l'amour vrai. Alors bien sûr, il l'a rencontré de façon complètement paradoxale, mais il meurt heureux parce qu'il a suffisamment aimé, parce qu'il a rencontré l'amour.
Mais il y a justement quelque chose d'un peu étonnant chez Stendhal, mais chez Zola, chez pratiquement tous les auteurs de cette longue période. Il est toujours question d'ambition, d'ascension sociale, alors que pour votre personnage principal, Pie, ce jeune élève à qui Ange est censé enseigner la littérature, il n'est pas question d'ambition sociale parce que lui est déjà arrivé dans une famille riche.
Oui, il est l'unique rejeton d'une espèce de famille de millionnaires extrêmement louches. Il est né aux îles Caïmans, enfin la profession de son père, mieux vaut ne pas savoir ce qu'il fait au juste.
Bah, vous dites qu'il est cambiste.
Il est cambiste, ce qui peut vouloir tout dire, n'est-ce pas ? Enfin, la vérité, c'est que...
On imagine dans les paradis fiscaux.
C'est ça, les paradis fiscaux et tout ça. Je pense que la tragédie de Pie, ce n'est pas d'être né dans une famille riche, c'est d'être né dans une famille qui n'a plus aucun contact avec le réel. Aussi bien son père que sa mère sont la caricature de ces gens qu'on rencontre si souvent aujourd'hui, qui n'ont plus aucun contact avec le réel. Conclusion, ce jeune homme vit réellement dans le néant, c'est ça son drame. Sous couleur de lui apprendre la littérature, ce que Ange vient lui apprendre, c'est le réel. D'ailleurs, il y a carrément des moments où elle le prend par la main pour sortir enfin de cette maison maudite et pour lui faire découvrir Bruxelles, la forêt, le tram, des choses comme ça.
Et il y a une relation, comment dirais-je, une relation de charme entre cette jeune professeure et son élève, une relation qui finalement est avant tout une relation au début pédagogique et qui sort de cela ? Est-ce que c'est une sorte de pente naturelle, d'autant qu'Ange va, elle aussi, connaître ce type de relation ?
Mais c'est-à-dire que Ange a beaucoup à apprendre aussi de son élève, puisque Ange est cette jeune femme de 19 ans, pathologiquement sérieuse. Vous avez raison de voir que je suis elle. À 19 ans, j'étais pathologiquement sérieuse. Je n'ai pas vécu une histoire telle que la sienne, mais je constatais qu'à cet âge-là, que je plaisais soit à des hommes de plus de 50 ans, soit à des adolescents de moins de 16 ans. Je crois que c'était lié à ça.
Je ne sais pas si c'est un lapsus, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous êtes Ange. Alors, je vous reconnais parce que vous avez étudié la philologie, parce que je crois que vous avez étudié Nietzsche en particulier. Et Ange évoque Nietzsche parce qu'il y a évidemment Bruxelles, mais c'est vous ?
Oh, c'est complètement moi. Vous m'auriez rencontré à 19 ans, à peu de choses près. Elle est mieux que moi, mais à peu de choses près, elle est moi.
Alors, elle est vous, mais à côté de ça, elle cohabite, elle est en colocation avec une jeune fille un peu plus âgée, Donat, qui, elle, est extrêmement obsessionnelle et impose à sa colocatrice un certain nombre de règles, qui sont des règles non expliquées. C'est vrai que c'est extrêmement agaçant dans la vie quand vous êtes confronté à des règles qu'on ne vous a pas exposées et qu'on vous présente comme des évidences, comme par exemple, tu ne dois pas déplacer mes courgettes dans le réfrigérateur.
Là aussi, j'ai rien inventé. J'ai eu diverses colocatrices au cours de ma vie. Et toutes les consignes que la colocatrice donne à Ange sont des consignes que j'ai eues dans la bouche de diverses colocatrices.
Mais alors, vous les choisissiez comment, vos colocataires ?
Ah ben, vous savez, on ne choisit pas, on prend ce qu'on trouve. Mais les colocataires sont des gens très, très étranges.
Ah oui, On pourrait dire aussi que les colocataires sont des gens plutôt ouverts parce qu'ils partagent leur logement. Vous, en tout cas, est cette femme avec qui Ange est censée cohabiter, elle va devenir de plus en plus une interlocutrice au fur et à mesure que le roman avance, Amélie Nothon.
Oui, je pense que la cohabitation avec Ange fait du bien à cette pauvre Donate. Finalement, elle devient moins obsessionnelle et puis elle peut apporter une vraie aide psychologique à Ange quand son histoire commence franchement à déraper.
France Culture, les matins d'été, Guillaume Erner.
Nous retrouvons notre invitée, la romancière Amélie Nothon, qui publie Les Aérostats chez Albin Michel, un roman où il est question d'un apprentissage de la grande littérature, celle que va présenter Ange, une jeune étudiante en philologie et bruxelloise qui donne des petits cours à Pi. Et ces petits cours vont être de grands cours, puisque ce jeune homme de 16 ans qui vit dans une famille très riche, entre un père qui est contrôle freaks, qui cherche à tout contrôler, et une mère qui collectionne les porcelaines sur Internet, c'est-à-dire les images de porcelaine, eh bien, cet enfant va apprendre ce qu'est la grande littérature. Il y avait justement ce lapsus de Michel Didim, qui dirige le festival La Mousson d'été, qui a parlé de grands auteurs, au lieu de parler de grands acteurs. Qu'est-ce qu'un grand auteur, justement, pour vous, Amélie Nothon? Est-ce que l'on peut distinguer la grande littérature d'une autre littérature? Quel sens cela a?
Toute littérature qui frappe est de la grande littérature. Tout texte qui demeure vivant est de la grande littérature. J'ai récemment fait cette expérience. J'avais reçu une compilation. Enfin, c'était Simon Leys, est un grand auteur belge qui est mort il y a quelques années. Et j'avais reçu sa compilation de La littérature et la mer. Et il y avait une préface de Simon Leys qui présentait son projet. Et en le lisant, je me disais, mais comme il est vivant, comme il est toujours là. Et puis il y avait deux autres préfaciers dont j'ai oublié les noms et qui, eux, étaient vivants. Et en lisant leurs textes, je les oubliais aussitôt. Ils n'étaient pas vivants. Voilà, un grand texte est un texte qui est toujours vivant. Chaque fois qu'on le reprend, on a affaire à la vie même.
Alors justement, pour Simon Leys, il y avait deux grands auteurs au XXe siècle. Il y avait Orwell et Kafka. Vous, Amélie Nothon, dans Les Aérostats, vous évoquez le Kafka de la métamorphose. Il y a, dites-vous, ou plutôt votre narratrice Ange, dit à ce jeune écolier qu'il y a chez Kafka, dans la métamorphose, finalement une métaphore ou un résumé de ce qu'est l'adolescence.
Oui, alors c'était mon point de vue, et là l'adolescent répond admirablement en disant « Mais non, mais comment pouvez-vous dire que la métamorphose est un livre qui s'adresse à la jeunesse ?» La métamorphose est un livre qui s'adresse au genre humain aujourd'hui, à la non-vie que nous sommes condamnés à vivre aujourd'hui. Ça ne concerne pas que les jeunes, et il a tout à fait raison.
Non-vie, qu'est-ce que ça veut dire ?
Écoutez, on n'a pas attendu la pandémie pour se rendre compte que vivre aujourd'hui était très difficile. C'est très difficile d'avoir encore aujourd'hui une vie qui ait un sens. C'est très difficile d'avoir du sens aujourd'hui. C'est ça que nous dit Kafka. Alors, bien sûr, c'est terrible de le découvrir quand on est jeune, mais c'est terrible aussi de se rendre compte que ça ne concerne pas que les jeunes.
Chez Kafka, il y a aussi la lettre au père. Oui. Vous l'évoquez d'ailleurs dans Les Aérostats, Amélie Nothon, parce que précisément Pi a des relations compliquées avec son père.
Oui, on sent que ce père aime réellement son fils et qu'il voudrait entrer en relation avec son fils, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y arrive pas du tout. Aussi s'y prend-il très mal. Il essaie d'avoir un rapport d'autoritarisme avec ce fils, et ce fils refuse totalement l'autorité de son père, de même que Kafka refusait totalement l'autorité de son père. Bon, ce père est aussi un grand pervers qui espionne son fils à travers des miroirs sans teint. Donc, par bien des aspects, on ne peut que donner raison au fils.
Et vous avez écrit une lettre au père, vous aussi, Amélie Nothon, il y a quelques semaines, parce que hélas, votre père est mort. Je vais lire un extrait de cette lettre, si vous me le permettez. « Cher papa, le 17 mars à 23h30, tu as décidé de partir. Je respecte ta décision, Je te comprends, tu as choisi de mourir chez toi, dans les bras de maman. Quand j'écris que tu as choisi de mourir, je ne parle pas d'euthanasie, même si ce sujet ne me choque pas. Je pense que tu souffrais profondément du cancer qui te rongeait, que la mort s'est présentée à toi et que tu l'as acceptée comme on accepte la délivrance. Cette lettre au père, ce n'est pas du tout comme la lettre au père de Kafka.
Mais il se trouve que j'avais, que j'ai toujours un très 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 bon père. Donc voilà, ça a été extrêmement dur de le perdre. En plus, au premier jour de la pandémie, je n'ai pas pu me rendre à ses funérailles. Je n'ai pu le retrouver que cet été, quand j'ai enfin pu aller sur sa tombe. Il n'est pas exagéré de dire que j'ai passé l'été sur la tombe de mon père. Ça avait très mal commencé les premières fois. Je n'éprouvais absolument rien. J'étais incapable d'éprouver la moindre émotion. Et puis finalement, le rapport s'est réinstallé. J'ai eu l'impression de totalement retrouver mon père sur sa tombe et ça a été d'une force inouïe.
Vous brossez le portrait de votre père dans cette lettre. Vous évoquez son appétit d'être humain, sa volonté de voir les autres, de voir le monde, puisqu'il était diplomate, Amélie Nothomb. Et vous dites que finalement, la période du confinement était la période qui était la plus opposée à...
On n'aurait jamais supporté ça. Heureusement qu'il est parti au premier jour du confinement. Il n'aurait jamais supporté d'être cloîtré chez lui, de devoir respecter les distances. Donc je suis contente pour lui qu'il n'ait pas connu ça.
Est-ce qu'un écrivain est plus armé pour supporter le confinement, pour supporter cette situation?
Je ne suis pas sûre. Vous savez, l'écriture, c'est à double tranchant. Ça donne l'impression d'être une arme, mais en même temps, ça donne une beaucoup de plus grande porosité à la personne qui croit disposer de cette arme. Donc... Je crois que ça fragilise davantage, finalement.
Est-ce que vous avez écrit pendant la période du confinement?
Oui, mais ça, vous savez, chez moi, c'est tellement pathologique que même quand je suis au comble de la maladie, j'écris. J'écris un minimum de 4 heures par jour, tous les jours. Ça ne correspond même pas à une discipline, c'est le premier de mes besoins.
Et le fait justement d'être dans cette situation, parce qu'on a connu des gens qui ne parvenaient pas du tout à lire, qui ne parvenaient pas à écrire lorsqu'ils devaient écrire ou à travailler lorsqu'ils avaient à travailler. C'est une situation qui ne vous a pas empêché tant, elle est, dites-vous, pathologique pour vous, Amélie.
Alors non seulement ça ne m'a absolument pas empêché d'écrire, mais ça m'a encore moins empêché de lire. Lire, je parlais tout à l'heure du salut par la lecture, mais... La lecture ne m'a jamais autant sauvée que pendant le confinement. J'en ai profité pour relire tout Victor Hugo. Mmh. Ça me fait plus que du bien.
Alors, il n'est pas question de Victor Hugo. En revanche, il est longuement question de l'Iliade et de l'Odyssée dans les aérostats. Et je vous propose d'écouter Pierre Judet de Lacombe dans Les chemins de la philosophie évoquer l'Iliade, Amélie Nothomb.
C'est un texte de colère, c'est pas un texte de sagesse, c'est pas un texte de morale, ça on peut essayer de tirer des morales de l'Iliade, mais on n'y arrive pas, on arrive à des choses un peu bêtasses, quoi, en général. Je veux dire que c'est plutôt c'est un texte d'expérience paroxystique dans tous les sens, c'est d'intelligence, où les dieux sont confrontés à eux-mêmes, regrettent leurs décisions, ils en pleurent, comme on verra, les héros ne comprennent pas, c'est un texte de l'opacité du monde. Il y a donc ce que dit au début là le texte, la décision de Zeus, donc la boule à Dios, la décision est une chose absolument incompréhensible. Zeus décide que les Grecs, que pourtant il soutient dans la guerre contre toi, pour des raisons qui ne sont jamais dites, que les Grecs doivent perdre, doivent être massacrés pendant plusieurs jours. Zeus décide qu'il y aurait cette monstruosité énorme, ce désordre infini de milliers de cadavres grecs laissés comme ça en pâture aux bêtes, contre tout rituel, contre toute piété, alors que Zeus est le dieu de la piété, c'est le dieu de l'ordre. Donc l'Iliade commence par cette énorme dissonance, c'est comme une symphonie de malheur si on veut, donc un énorme accord dissonant. Quelque chose d'inouï, de monstrueux, d'un point de vue humain, d'un point de vue divin, a été voulu par le roi des dieux.
L'Iliade, selon Pierre Judet de Lacombe, dans Les chemins de la philosophie, et puis il y a l'Iliade et l'Odyssée, selon Amélie Nothomb, ou selon Ange, ce personnage de jeune étudiante qui vient donner des cours de littérature à Pi. Et alors, vous écrivez cette phrase étonnante, vous dites finalement que toute littérature peut être classée ou bien du côté de l'Iliade, ou bien du côté de l'Odyssée. Expliquez-nous ce que ça veut dire, Amélie Nothomb.
Ah, mais ça, ce n'est pas du tout de moi, cette considération, c'est de Queneau. C'est Queneau qui disait que tout grand texte, tout roman est une Iliade ou une Odyssée. Mais c'est tout à fait ça. C'est comme le disait admirablement ce monsieur dont je n'avais jamais entendu parler. L'Iliade est un texte de chaos, d'injustice, de dissonance. C'est la guerre. Et l'Odyssée, c'est un voyage qui finalement se termine assez bien. Oui, en effet, tout texte est soit un texte de chaos qui d'ailleurs se conclut pas du tout, il n'y a pas de conclusion à l'Iliade, soit un voyage assez heureux qui finit plutôt agréablement.
C'est ce chaos qui plaît à Pi, l'étudiant que vous mettez en scène.
C'est surtout Pi qui dit des choses magnifiques sur l'Iliade. Il a tellement raison quand il dit l'Iliade, c'est bigger than life. C'est comme le disait ce monsieur admirable, quoi. C'est
plus grand que la vie.
C'est plus grand que la vie. C'est plus fort que tout. On ne peut être que pris aux tripes par ce texte qui, en effet, n'a pas de morale. C'est la guerre, mais comme si vous y étiez. On y assiste, on l'entend, le texte est dissonant jusque dans ses vers. On entend vraiment le cliquetis des armes. L'injustice des dieux dans l'Iliade, c'est quelque chose de sublime.
Mais apparemment, c'est important pour vous de dire que dans la littérature, il n'y a pas de morale, même si chez les grands auteurs, il y a parfois une morale. Vous citez Victor Hugo, Hugo est très moraliste.
Mais c'est très important de le dire aujourd'hui aux adolescents, parce que je vous dis, je reçois énormément de lettres de jeunes gens qui me disent « Mais attendez, vous ne pouvez pas dire du bien de ce livre parce que il y a un meurtre à la fin ou ce personnage est un sinistre type. »
Bon, quel livre ? Encore Le Rouge et le Noir, par exemple ?
Pas que Le Rouge et le Noir. Bah, d'abord, ça m'a dit beaucoup sur mes livres dans lesquels il y a des tas de personnages juste infects. Et je leur explique à tout le temps, mais vous savez, la littérature n'est pas l'art du bien. Il peut arriver qu'il y ait une intersection entre la littérature et le bien, mais c'est plutôt rare. Et ce n'est pas la fonction de la littérature. La littérature, c'est un miroir que l'on promène le long du chemin. Ça sert à nous décrypter le réel, pas à nous apprendre le bien.
Mais alors, comment avez-vous fait avec Victor Hugo ? Puisque chez Victor Hugo, justement, il est essentiellement question de personnages qui sont quasiment des personnages mythiques dans le bien ou dans le mal, d'ailleurs.
Écoutez, c'est pas parce que la littérature n'est pas l'art du bien que je suis allergique au bien. Du reste,
j'ai pas dit que vous étiez allergique au bien, mais...
Le bien est très très intéressant chez Victor Hugo. Pour moi, le personnage, le chef-d'œuvre absolu de Victor Hugo, c'est Javert. La confrontation entre Javert et Valjean dans Les Misérables, ce sont deux conceptions du bien qui s'affrontent. On n'a jamais fait quelque chose d'aussi fort dans toute l'histoire de la littérature.
Oui, mais alors, justement, parce que là, on a affaire à des mythes. Ce sont des personnages chez Hugo qui sont bien souvent des personnages relevant de valeurs, de vertus. Ils ont une psychologie qui est peut-être moins profonde que celle chez Stendhal, par exemple, dans Le Rouge et le Noir. C'est évident. Comment avez-vous un regard commun sur ces deux types de littérature, ces deux types de romanciers ?
Mais il ne s'agit pas du tout d'avoir un regard commun sur eux, il s'agit de voir ce que ces grands artistes font du même sujet, c'est ça qui est formidable. L'individu Stendhal, l'individu Valjean, Hugo, braquent leur regard sur l'espèce humaine et ça donne deux résultats qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre et qui ont pour unique point commun d'être sublimes, n'est-ce pas formidable ?
Il y a en tout cas une espérance dans votre roman, Amélie Nothomb, Les Aérostats, publié chez Albin Michel, c'est le fait que l'on peut encore croire en la littérature et croire que la littérature peut aujourd'hui changer la vie d'un adolescent. Est-ce que vous pensez cela véritablement possible ?
Mais je ne le pense pas, je le constate. Tous les adolescents qui se convertissent à la lecture des grands livres deviennent des êtres réellement vivants. Et ce n'est pas valable que pour les adolescents. Il n'y a pas d'âge pour contracter le virus de la lecture des grands auteurs et pour devenir un être vivant.
Bon, mais il y a aussi de nombreuses craintes sur le fait que la littérature perde son statut, sur la mort du roman, c'est une vieille tarte à la crème.
Je n'y crois pas. Je ne peux pas croire que l'on perde un tel goût. Ce serait pour moi comme perdre le goût du champagne, comme perdre le goût de quelque chose, d'une expérience de plaisir irremplaçable.
Le fait, par exemple, que la grande littérature, celle qui est universelle, universalisable, soit de plus en plus remplacée par une littérature autobiographique, où il est question de faits vrais ou réputés vrais, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Pour moi, c'est un faux débat, que la littérature soit autobiographique ou non. Il y a autant de chefs-d'œuvre dans l'autobiographie qu'ailleurs, et que l'autobiographie soit vraie ou fausse, ça, je m'en contrefiche. Ce qui compte, c'est d'avoir affaire à des livres qui sont des chefs-d'œuvre, et dans la littérature vraie ou fausse autobiographie, il y a de véritables chefs-d'œuvre, donc tout va bien.
Et la concurrence d'autres récits, je pense par exemple au cinéma ou plus précisément encore aux séries dont beaucoup font aujourd'hui une consommation intensive, est-ce que vous n'avez pas peur que ce mode de narration eh bien, fasse périr un autre ?
Écoutez, je sais que c'est une crainte que beaucoup d'éditeurs ont aujourd'hui. Je ne peux pas y croire. Je ne doute pas un instant. Je ne regarde jamais de série parce que je ne regarde aucune image. Je vais au cinéma pour voir des films. C'est ma seule façon d'avoir accès à des images. Je ne doute pas que les séries soient extrêmement brillantes et que les regarder soit un très grand plaisir. Mais pour moi, il ne peut pas y avoir de concurrence entre ce plaisir-là et le plaisir irremplaçable qui consiste à lire un très grand auteur.
Vous ne regardez aucune image. Expliquez-moi ce que ça veut dire.
Je déteste regarder les images sur petit écran. Ça me plombe le moral à un point que je ne peux pas vous dire. Donc, je ne regarde aucun petit écran.
Et en matière d'histoire, est-ce que vous appréciez tous les types d'histoires ? Parce que bien souvent, ceux qui aiment les séries aiment tout simplement la narration, le fait qu'on leur raconte une histoire et finalement ce que votre personnage Ange apprend à ce jeune étudiant, c'est la manière dont on peut jouir, prendre du plaisir à une histoire.
Vous ne posez pas la question à la bonne personne puisque je n'ai aucune expérience des séries. Mais j'ai toute confiance, j'ai énormément d'avis.
Sur le fait d'avoir différents récits, je pense aussi bien aux séries que par exemple aux faits divers.
Là aussi, aucun problème. Les faits divers sont très très bien représentés en littérature. La littérature est pour moi une des meilleures façons de raconter le fait divers. Donc toutes ces formes de narration, pour moi, là encore, il n'y a pas de concurrence. Tout peut conduire à la très grande littérature.
Lorsque vous écrivez ce livre, Les aérostats Amélie Nothomb, vous mettez en scène une manière dont la littérature peut guérir et peut transformer un adolescent avec une relation qui est finalement de moins en moins verticale. On est aujourd'hui très enclin à critiquer les relations verticales comme celles qui peuvent être instaurées, par exemple, entre un élève et son maître, et on voit très bien de quelle manière l'élève dans ce roman prend l'ascendant, ou en tout cas donne du fil à retordre au maître.
Ah oui, non seulement l'élève donne du fil à retordre au maître, mais il dépasse le maître. La manière très spéciale dont Pi s'approprie la littérature à la fin du livre n'était pas du tout celle que Ange lui proposait, mais en même temps cette manière est incontestable et de façon certes tout à fait immorale, le sauve bel et bien.
Et puis on songe aux relations amoureuses qu'il peut y avoir entre un élève et son maître, ou alors l'inverse, je ne sais pas. Par exemple, lorsqu'une professeure de littérature tombe amoureuse d'un élève qui devient après président de la République, cela existe.
Oui, alors je ne me suis pas du tout inspirée de ça. Je rappelle quand même que Ange a 19 ans et que Pi a 16 ans. L'écart d'âge est quand même très réduit. Donc moi, c'est pour ça aussi que je cite Le Diable au corps, parce que dans Le Diable au corps, c'est très différent bien sûr, mais c'est une histoire d'amour charnel entre une jeune femme de 19 ans et une adolescente de 16 ans.
Je vous ai entendu dire que Brigitte Macron était un personnage qui vous inspirait.
C'est vrai que je la trouve très très inspirante. Je ne la connais pas assez, mais le peu que j'ai vu d'elle, je crois qu'elle ferait un sacré personnage de roman.
Pourquoi ?
Eh bien, parce que, elle a une manière très particulière d'être séduisante. J'ai pas suivi de très près toute cette histoire, mais comment ne pas être intriguée par l'incroyable histoire d'amour qu'elle a vécue et qu'elle vit toujours.
Mais cela veut dire aussi que dans ce roman, peut-être dans votre vie, enfin je n'en sais rien, mais en tout cas, le fait d'avoir un rapport particulier à la littérature est aussi quelque chose d'extrêmement séduisant, Amélie Nothomb.
Alors, est-ce que vous essayez de me dire que la littérature me rend séduisante ? J'ai pas dû comprendre votre question, c'est pas possible.
Si vous l'avez très bien comprise.
Je ne sais pas quoi vous répondre.
Non, ça veut dire que il y a chez les gens qui apprécient la littérature, qui ont un rapport particulier avec elle, quelque chose de particulièrement séduisant. Enfin, en tout cas, c'est une hypothèse qu'on peut formuler comme ça.
Ce qui est certain, c'est que pour moi, la seule possibilité de plaire, et je ne parle même pas de séduction, c'était la littérature. En dehors de la littérature, tout simplement, les probabilités que j'existe étaient nulles.
Et c'est pour ça que vous écrivez autant ?
Sans doute, c'est parce que je veux exister.
En tout cas, Les Aérostats, c'est un très bon roman. Il est publié chez Albin Michel. Merci beaucoup, Amélie Nothomb, d'avoir été avec nous ce matin.
Merci, Guillaume Erner.